Mesdames et messieurs, c'est à vous la parole pour vos questions. Merci, merci peut-être de vous présenter.
Oui, merci Monsieur le Président. Clément Delors, Instagram, Monsieur l'administrateur à l'Assemblée nationale. Je reprends dans votre intervention, il y a un moment, vous évoquiez la mise en place pratique et vous laissez cette phrase en disant qu'il y a beaucoup de cas, la loi doit s'appliquer. Et j'aurais voulu avoir le sentiment sur trois illustrations. J'ai le sentiment qu'en fait, au nom d'arguments liés à la tradition, on accepte les accommodations du principe que vous avez évoqué, voire des entorses. Et ma question, c'est pourquoi les accepter? Comment, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes intervenu, est-ce que ça vous semble acceptable au-delà de cet aspect de tradition? Et je vous ai compris pourquoi j'en parle. Trois exemples. Premier exemple, comment se fait-il que notre État républicain, on admet que des agents de l'État, durant leur service, sur ordre de leur hiérarchie, assistent à un office religieux, strictement catholique et non œcuménique. Je parle de Sainte-Geneviève. Comment se fait-il que sur le territoire national, j'insiste, on ne parle pas de soldats en opération extérieure, on parle bien d'agents de l'État, civils, militaires, qui sont formellement invités par leur hiérarchie à participer à un office religieux et non une célébration œcuménique. On me dira, c'est la tradition, on a toujours fait ça dans les armées. Oui, mais je ne comprends pas, et très sincèrement, comment c'est compatible avec le principe de laïcité. Deuxième illustration, vous l'avez rapidement évoqué, à supposer que le principe de laïcité soit bien un principe constitutionnel, pourquoi le concordat est-il toujours appliqué en Alsace-Moselle et pourquoi ne devons-nous toujours pas dénoncer le concordat au-delà de considérations financières qui fait que c'est la seule caisse d'assurance maladie excédentaire? Ça, je veux bien, mais au-delà de considérations de principe, pourquoi ce concordat n'a-t-il jamais été remis en question dans son principe même? Et troisième question, est-ce que dans le cadre de nos révisions constitutionnelles à venir, comment est-ce que vous envisagez l'acceptation d'une application différenciée sur le territoire de la loi jacobine que vous représentiez? Et est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à une application de ces lois laïques, de cette laïcité différenciée selon le territoire, qui admettrait que dans certains espaces de la République française, on puisse admettre effectivement le port ostensible du prosélytisme dans l'espace public au nom de traditions locales? Et je pense notamment aux espaces ultramarins, mais pas seulement. Voilà trois éléments d'interrogation principielle, j'insiste sur le principiel, qui me semble montrer qu'aujourd'hui, la mise en pratique n'est pas conforme aux éléments de principe et que, contrairement à ce que vous souhaitiez, la loi ne s'applique pas partout de la même manière.
Alors, trois questions importantes et en effet de principe. D'abord, vous avez remarqué que nous n'employons jamais l'expression d'accommodement, encore moins d'accommodement raisonnable, parce que c'est une conception différente de la nôtre. C'est la conception québécoise, d'ailleurs, combattue avec des projets de charte de la laïcité. Il n'est pas normal, sur votre premier point, il n'est pas normal que des élus ou des responsables militaires appellent des agents publics à participer à un office religieux. Ça n'est pas normal. Ils sont libres d'y aller en dehors de leur temps de service, comme tout citoyen, comme tout croyant. Encore moins normal, ce qui a pu arriver ici ou là, que des collectivités publiques financent, c'est rare mais ça existe, des manifestations à caractère religieux. Je pense aux ostensions limousines, où la quasi-totalité des élus, tous bords politiques confondus, trouvent ça très bien de financer. Ça a le droit d'exister, de se dérouler. Ils n'ont pas le droit de financer, ils perdent régulièrement d'ailleurs, devant les tribunaux lorsqu'ils sont attaqués par des associations laïques.
Permettez, pardon, M. le Président, juste pour préciser, un exemple qui m'a beaucoup frappé, sortie de cérémonie militaire d'une école militaire, traditionnellement est précédée d'une messe, certains élèves ont dit « nous ne souhaitons pas y aller », le gouvernement leur a dit « vous serez punis ». Et évidemment, cette affaire n'a jamais été portée devant un tribunal, car s'ils avaient protesté qu'ils n'avaient pas accepté la punition, leur carrière en aurait fortement
pâti. Bien sûr. C'est scandaleux, nous n'avons pas été saisis, nous, de cas de ce genre, parce que les gens n'osent peut-être pas le faire. Encore faut-il regarder, y compris que le défenseur des droits, parce qu'il y a des procédures du défenseur des droits qui peuvent garantir une certaine forme d'anonymat et une enquête. Cela dit, si vous, les uns les autres, connaissez des cas de ce genre, où les gens acceptent de nous en parler, même sous couvert d'anonymat, c'est important qu'on le sache, c'est tout à fait choquant, scandaleux. Alsace-Moselle. D'abord, une position de principe, pour le coup, constitutionnel, qu'on peut évidemment critiquer, et qui est critiquable d'un point de vue juridique, mais enfin, Nous nous en tenons à ce que dit le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel. Dans le débat public, nous appliquons ça. Le Conseil constitutionnel a estimé que le statut particulier de l'Alsace-Moselle, qui est évidemment explicitement contraire à l'article 2 de la loi de 1905, qui dit que la République ne reconnaît le salarié ni subventionne aucun culte, là, on subventionne des cultes. Elle n'était pas contraire à la Constitution parce que le constituant de 1946, comme celui de 1958, ne l'avait pas remis en cause. Encore une fois, les juristes peuvent en débattre, mais c'est un fait que ce n'est pas considéré comme contraire à la Constitution. Ce que, par contre, le Conseil constitutionnel a dit, c'est qu'on ne peut pas aggraver l'écart, on ne peut que le réduire. Curieusement, nous n'avons pas été saisis par les gouvernements successifs de cette question, qui auraient pu nous en saisir. Nous nous en sommes donc saisis nous-mêmes, dans la liberté d'autosaisine dont je vous parle. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons entendu les associations laïques, bien sûr, à la fois nationales et locales, la quasi-totalité des forces politiques, les représentants des religions et des cultes. Nous avons regardé aussi un sondage qui n'est pas très ancien, qui est « Êtes-vous attaché au maintien de votre régime de culte particulier en Alsace-Moselle ?» Nous étions pour la plupart convaincus que les Alsaciens et Mosellans étaient attachés à leur particularité, pour des raisons historiques, abandonnés par la France de l'intérieur, alors à la fois la chasse, les beaux, la mutualité qui pouvait être meilleure que dans la France de l'intérieur. Alors là, la question est posée sur le culte. 90% répondent oui, ce qui n'empêcherait pas le législateur d'aller contre, ni l'observatoire de le recommander. Mais enfin, nous avons tenu raisonnement d'une qualification de politique. Aucun élu nous a demandé de revenir là-dessus. Ce qui n'empêche pas, c'est pas parce que les Alsaciens et Mosellans n'en veulent pas, que la République au niveau national, ne pourrait pas le décider. Il nous a semblé que cette force dans l'opinion, cette force chez les élus, nous conduisait à ne pas soulever ce problème sous la forme l'abolition, même progressive. Par contre, nous avons demandé et en partie obtenu un certain nombre de changements qui ne sont pas tout à fait négligeables. Premier point, nous nous sommes aperçus qu'existait en droit allemand, et ce n'était pas complètement forcément inapplicable, toujours un délit de blasphème. La moindre des choses après Charlie Hebdo est que le délit de blasphème soit expressément aboli. On a attendu une loi de la fin du quinquennat précédent pour qu'enfin ce soit fait. D'ailleurs, les cultes religieux étaient d'accord. On leur a dit merci beaucoup, nous l'aurions proposé, même si vous n'étiez pas d'accord. Mais sauf qu'en plus, ils l'ont proposé d'eux-mêmes. Deuxième point, les régimes de sanctions par rapport aux atteintes aux libertés de culte, de manifestations étaient différents. Ça a été harmonisé. Troisième point, nous avons dit que dans la République laïque, la moindre des choses était que on inverse la charge de la preuve. Je m'explique. Jusqu'à une date récente, quand vous êtes parent d'un enfant d'Alsace-Moselle, vous devez demander qu'il soit dispensé de l'enseignement religieux. La moindre des choses, c'est qu'on inverse la charge de la preuve. On doit demander si on veut qu'un enfant suive un enseignement religieux, ce qui a été fait. Par parenthèse, d'ailleurs, l'enseignement religieux, alors des laïcs avec... un sourire ironique le disent, plus les enfants grandissent, moins ils vont à l'enseignement religieux. Ça veut dire que pour eux, la conscience progresse. Mais néanmoins, la charge de la preuve est inversée. Par contre, nous n'avons jusqu'ici pas obtenu satisfaction. Nous l'avons rappelé au gouvernement à plusieurs reprises, y compris publiquement. Nous avons découvert que dans le primaire, l'enseignement religieux était pris sur l'enseignement général. Autrement dit, les élèves du primaire d'Alsace-Moselle ont une heure de moins d'enseignement général. Nous avons dit que ça avait été pris en plus de l'enseignement général. Il y a débat au sein de l'Église catholique. Pas toute l'Église catholique est contre, mais l'évêque de Strasbourg est contre. Et donc, nous continuons à insister pour que cette mesure soit prise. Notre troisième point, c'est la diversité d'application de la loi sur la République française. Cette diversité n'est pas illimitée. Le prosélytisme, où que ce soit, abusif, peut être sanctionné. L'atteinte à la liberté, y compris de ne pas pratiquer une religion, peut être sanctionnée. Et c'est vrai que nos Outre-mer sont formidablement différents. On n'a pas délibéré là-dessus à l'Observatoire, on s'est contenté pour l'instant de l'Alsace-Moselle, donc je ne peux pas vous dire quelle serait notre position. C'est un problème difficile, parce que là encore, il y a des histoires différentes, des attachements différents. Cette diversité est aussi une source de force, dans la mesure où on respecte les principes de base, qui sont la liberté de conscience, la liberté de culte. C'est ce que dit Daniel Maximin, notre ultramarin, qui dit « C'est grâce à la diversité de ces outre-mer que nous pouvons, avec l'affirmation du principe de laïcité, parler au nom de l'universel. » Je vous livre cette réflexion sur ce point des outre-mer. Voilà pour vos trois observations principielles.
Monsieur le Le président, juste préciser peut-être la taille de l'Observatoire de la laïcité. Je ne crois pas que vous l'avez fait, parce qu'on a tendance à vous saisir des noms.
Je n'ai pas précisé, oui, j'aurais dû le dire. Nous sommes donc 21.
Non, mais membres. La gouvernance, mais je veux dire en termes
de... Et en termes de personnel, nous avons un budget de 67 000 euros en moyenne, et 4 salaires, 2 assistantes, un chargé de mission et un rapporteur général. Voilà. Et nous répondons, malgré tout, aux sollicitations possibles dans un délai de 48 heures par Internet ou par téléphone. Et nous sommes de plus en plus sollicités, mais bon, l'argent public est rare et nous sommes fiers que, je ne sais pas si ça a refait cette année, mais que l'an dernier, je crois, il y a 2 ans, le Trésor, qui regarde évidemment tous les organismes consultatifs, dont certains ne se réunissent même pas, et considérait qu'on avait un des meilleurs rapports qualité-prix.
C'est un point commun avec Liège Chemin.
Absolument.
Vous avez indiqué tout à l'heure, M. le Président, que parmi les défis, les enjeux, cette préoccupation plus grande consécutive aux attentats était une bonne chose. Alors, il y avait un point positif, un point négatif, je reprends le point positif, parce qu'au moins, on parle de la laïcité. Avant, on n'en parlait pas parce que peut-être que les problèmes ne se posaient pas, et maintenant, on en parle. Moi, ce que je constate, c'est que dans les débats, ou dans les colloques, ou dans les formations, puisqu'à l'école de la magistrature, il y a un problème de formation, on a tendance beaucoup à mélanger ces problèmes de laïcité avec les problèmes d'extrémisme religieux.
Absolument.
Je me demande, c'est pas vraiment ça une difficulté. Ça, c'est le premier point, islamisme, laïcité. Personnellement, je vois pas de rapport. Je trouve même que cet amalgame est assez dangereux et c'est ce qui se passe souvent dans les formations. Ou même si la formation est séparée en deux, si vous faites une analyse, généralement, il y a un temps pour laïcité, ensuite un temps pour l'extrémisme. Ça me pose des questions. Ensuite, bon, ça c'est ma première question. La deuxième question, ça sera sur la neutralité du service public. Donc, le statut de la fonction publique a été récemment modifié pour inclure cette notion de laïcité, en donnant des exemples et en instaurant une responsabilité des chefs de service dans la neutralité des services. Donc, neutralité d'apparence, neutralité dans l'expression. Neutralité aussi dans les organisations, responsabilité du chef de service quand la neutralité n'est pas assurée. Je n'ai pas encore vu de mise en cause de la responsabilité justement des responsables de service qui doit s'exprimer à mon avis sous plusieurs facettes, la formation et puis les règles écrites. Ce que je note par exemple dans l'administration que je connais, c'est l'administration de la justice, c'est que nous avons un travail extrêmement fourni pour toutes les administrations de réseau qui s'occupent de personnes de l'assainissement de justice, PJJ, DAP, enfin, protection judiciaire de la jeunesse, administration du cancer, et rien, par exemple, pour les services judiciaires où les problèmes se posent. Et donc, voilà, je voulais vous interroger sur votre position.
Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison de ce mélange, alors ce qu'on appelle d'ailleurs la radicalisation, la prévention de la radicalisation, la laïcité. J'ajoute que sur l'aspect radicalisation, il y aurait beaucoup de choses intéressantes à discuter. C'est pas notre sujet ici, c'est pas notre sujet à l'Observatoire, parce que je crois que là encore, on mélange beaucoup de choses. Il y a évidemment une inquiétude légitime des pouvoirs publics, des citoyens sur la radicalisation conduisant à la violence, pouvant conduire à la violence. Ce qui fait d'ailleurs, ce que me disaient des chercheurs, on travaille avec un réseau de 17 chercheurs et beaucoup d'autres, mais qui sont associés, et ils disaient, est-ce que vous ne pouvez pas faire des appels d'offres? Je dis, non, avec 67 000 euros, on ne peut pas vraiment faire un appel d'offres. On peut suggérer des universités de le faire, mais ils m'ont dit, si vous faites un truc sur la radicalité, facile d'avoir des crédits. Sur la laïcité, plus difficile. Je ne dis pas que c'est d'une importance égale, c'est différent. Et nous insistons constamment, quand nous sommes sollicités pour des interventions en formation, de dire, nous ne traitons pas de cette question-là. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Et nous nous entendons avec le comité interministériel de prévention de la radicalité, qui est animé maintenant par Mme Muriel Domenac, avant c'était le préfet Pierre Ngane, et nous intervenons souvent pour dire, il y a deux choses différentes, et ne mélangeons pas les deux dans une même formation. Donc, en tout cas, nous nous assurons cette distinction. J'ajoute que c'est extrêmement important la laïcité pour, encore une fois, le vivre ensemble, le fonctionnement, pour faire nation au-delà de nos différences. C'est extrêmement important pour la cohésion, la tranquillité et l'ordre public. Mais ce n'est pas une laïcité aussi parfaite soit-elle, aussi éventuellement intransigeante soit-elle, qui empêchera les attentats. Ce n'est pas le même sujet. Ce qui ne veut pas dire que la laïcité ne soit pas extrêmement importante. La modification de la loi sur les fonctionnaires a été faite, nous avons été saisis avant le projet de loi qui était déposé par la ministre de l'époque, Mme Marie-Lise Lebranchu. L'Observatoire a été saisi et la rédaction suit assez largement ce que nous avions souhaité sur les précisions quant à la neutralité, les responsabilités du chef de service qui n'étaient ou pas claires ou pas dites. Nous n'avons pas été saisis d'interrogations sur la mise en cause de cette responsabilité. Et donc, on peut avoir un échange là-dessus, c'est pas une accusation, mais c'est vous constatiez que pour les services judiciaires, la question pardon, n'était pas posée. Nous avons, nous, beaucoup travaillé avec la PJJ, qui fait énormément de formations de très, très grande qualité. D'ailleurs, c'est parmi les services les plus actifs. Nous avons également beaucoup travaillé avec l'administration pénitentiaire. Nous avons d'ailleurs évoqué ce sujet également avec la garde des Sceaux il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que pour le reste, donc il faut que j'interroge le représentant, la représentante du ministère de la Justice pour savoir si eux ont des informations de mémoire dans notre rapport annuel. Ils n'ont pas remonté. Il faudrait que je vérifie de préoccupations particulières qui seraient pourtant légitimes, ne serait-ce pour mettre en œuvre la loi, y compris dans les dimensions formation et respect de la loi.
Bonjour, Thierry Hennel, pasteur au Aumônier Hospitalier et au Aumônier aux Armées, Fédération protestante de France. Monsieur le ministre, vous avez réagi vigoureusement il y a quelques semaines, quelques mois, au rapport du préfet Gilles Favreux, rapport demandé par le ministère de l'Intérieur, pouvez-vous nous donner quelques éléments pourquoi vous avez réagi alors qu'il y avait des propositions, semble-t-il, sensées et pourquoi le ministère de l'Intérieur ne nous a-t-il pas saisi pourquoi a-t-il demandé à ce préfet dont on connaît les positions.
Oui, qui en a abusé par des tweets tout en étant préfet, ce qui est une conception du devoir de réserve qui n'est pas la mienne, j'ai été fonctionnaire aussi. Mais peu importe, non, l'histoire de ce rapport est assez singulière. Nous avons fait, parmi nos avis, nos recommandations, une recommandation disant que nous constations que malgré la bonne volonté des uns et des autres, il y avait une coordination très insuffisante dans beaucoup de cas, entre les collectivités locales et l'État, les préfectures, au sujet du diagnostic et des réponses à apporter aux problèmes de gestion du fait religieux. Il nous paraissait indispensable qu'il y ait formellement un travail en commun qui soit fait, qui pouvait être fait dans une instance existante ou dans une instance nouvelle. Donc la question c'était comment mieux coordonner sur ces questions de laïcité et de fait religieux le travail des collectivités locales et des préfets. Le secrétaire général du ministère, qui est par ailleurs le représentant en dehors de M. Chaumas au ministère, a donc demandé au préfet Clavreul comment mettre en œuvre la recommandation de l'Observatoire. Il me l'aurait demandé, je lui aurais écrit la circulaire en une demi-heure, mais vraiment. C'est pas très compliqué, il y a deux ou trois solutions. Le préfet Clavreul s'en est saisi pour traiter de tout, de l'état des lieux de la laïcité, de l'égalité entre les femmes et les hommes, du fait que la laïcité n'est pas contestée dans les faits, mais contestée dans les têtes, avec une enquête qui a consisté à parcourir 9 départements et interroger des dizaines de personnes dont on n'a pas l'identité, dont on n'a pas la source, dont on n'a pas le verbatim. Donc c'est un travail qui, sur le plan intellectuel et de la rigueur, est consternant. Alors même que notre travail à nous est de faire 600 pages chaque année, où on a des remontées de partout et on les donne, on les analyse avec des enquêtes et des sondages. Ensuite, il donne des recommandations dont un certain nombre sont en effet tout à fait de bon sens, d'autant plus que on les a déjà formulées ou qu'elles sont appliquées. Exemple, on devrait mettre un site sur la laïcité qui serait géré par l'Observatoire. Notre site existe depuis le premier jour. Donc ce manque de rigueur et cette tonalité qui est un peu inquiétante, même s'il dit qu'il y a peu d'atteinte directe à la laïcité, nous a semblé dangereuse. Et donc, je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, qui avant la publication de ce rapport aurait pu nous consulter aussi, puisque c'était la réponse à sa question. J'ai senti un certain embarras. Toujours est-il que dans le rapport annuel, le ministère de l'Intérieur n'a pas jugé utile de mentionner le rapport Clavreul.
Comment vous analysez
Je n'ai pas compris, très sincèrement. Je n'ai pas compris. En plus, quand ça, c'est pas très compliqué, on pouvait charger le chef du bureau des cultes, ou l'observatoire, ou un préfet. Mais lui, qui est très engagé, qui est depuis l'origine un des animateurs du printemps républicain, qui tweet avec une liberté de ton étonnante pour un fonctionnaire, c'est pas forcément le mieux placé.
Mais
Donc c'est un peu mystérieux, je ne sais pas qui vraiment a décidé ça. Bon, c'est pas très grave, l'essentiel c'est qu'on travaille, qu'on avance.
Merci.
D'autres questions ?
Pierre.
Rien sur la question de la...
Vous présentez s'il vous plaît.
Pardon, oui. Pierre Jardon, donc en charge du dialogue social à la CFTC.
Ah, très bien.
Dans le cadre d'un travail que je mène avec des collègues sur le faire religieux en entreprise, on a fait un certain nombre d'auditions, participé à des colloques et autres. Et vous évoquiez à un moment la question de la médiatisation et vous félicitiez même de cette médiatisation. Et le retour qu'on a du terrain, et un certain nombre de retours le disent, c'est que le trop de médiatisation finalement crée un problème qui n'existait
pas. Pardonnez-moi, je ne me félicite pas de la médiatisation. Pas du tout. Je me félicite du fait qu'on discute de sujets dont on ne parlait pas avant. Mais je suis très sévère sur la médiatisation. Pardonnez-moi, je vous redonne la parole tout de suite après. Nous le sommes depuis le début, parce que les médias sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, ont la culture du clash, la culture du sensationnel, ne vérifient pas toujours leurs informations. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Cisco en Corse. Excusez-moi, mais c'est intéressant pour votre réflexion. Cisco, époque du Burkini. J'ouvre ma radio un matin et j'entends affrontement intercommunautaire en Corse, la communauté corse contre la communauté maghrébine. Je connais la Corse, j'ai des amis, je sais qu'on peut avoir le sang chaud, que les fusils sont assez répandus. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait des sortes d'affrontements physiques que j'imaginais. J'appelle le sous-préfet, j'appelle des amis corses que n'importe qui d'autre, un journaliste ou un responsable politique aurait pu et dû faire, et je comprends ce qui s'est passé. Sur une petite crique près de Bastia, un groupe de Corses marocains, d'origine marocaine, de cette marocaine, j'en sais rien, est sur la plage. Il n'y a pas de femme en burkini. Il y a un touriste qui arrive et qui photographie et eux et la plage, ils s'engueulent, ils se tapent un peu dessus, le touriste revient au village et raconte à quel point il était maltraité. Aussitôt les Corses disent on ne va pas laisser des Corses marocains se comporter comme ça, et viennent en expédition revancharde s'affronter verbalement et un peu physiquement avec les Corses marocains. C'est ça les affrontements intercommunautaires en Corse. J'ajoute pour la petite histoire que le leader des Corses marocains comme le leader des Corses corses avait un petit casier judiciaire, et j'ajoute les deux étaient allés au même lycée. Dans les médias, ça donne affrontement intercommunautaire en Corse. Donc, on appelle nous les politiques, parce que les politiques ont embrayé pour la plupart d'entre eux, sans vraiment regarder. Voilà, on en appelle au contraire avec très grande vigilance. On travaille d'ailleurs avec le CEVIPOF et Sciences Po, et avec des écoles de journalistes sur cette question de contextualisation. Donc, au contraire, c'est hyper dangereux, car ça crée en effet des problèmes, il n'y en a pas. Et surtout, ça donne une impression, encore une fois, il ne faut pas nier les problèmes, il ne faut pas cacher la poussière sous le tapis. Mais ça donne l'impression parfois que la France est à feu à sang sur cette question. Or, nous constatons sur le terrain, heureusement, qu'il y a beaucoup d'endroits où ça se passe bien. Ça suppose pourtant de la vigilance, du débat, du combat, des condamnations. Et donc, les gens ont l'impression qu'il y a une espèce de... C'était aussi un petit peu, sur filigrane du rapport Claveur, une espèce de pieuvre verte, je ne prends pas la couleur verte au hasard, qui là serait en train d'attaquer la République de partout. Il y a des endroits d'attaque délibérée par l'islam politique de la République, c'est évident, à l'école et dans les quartiers. Mais il n'y a pas une espèce d'organisation tentaculaire générale, comme on disait autrefois, il y a les 200 familles. Voilà. Mais ça m'intéressera de parler avec vous, parce qu'on a commencé à travailler avec certains syndicats aussi, mais je vous leur donne la parole.
Très bien. Donc, ouais, voilà, mais c'est ça. Et donc, dans nos interlocuteurs, que ce soit des chefs d'entreprise ou même des syndicats ou des salariés, c'était de dire, mais c'est tellement médiatisé, c'est pris en charge par les pouvoirs publics, on met en place un guide de la laïcité au ministère du Travail. Il y a l'Observatoire qui communique beaucoup. Il y a la loi travail avec l'article sur le règlement intérieur et tout ça. Donc finalement, dans les entreprises, dans la plupart... Enfin voilà, les questions de faire religieux, finalement, c'est très, très, très minoritaire. Et on en parle comme si ça existait partout, que c'était un problème et qu'il fallait que les gens s'en saisissent. Et le constat de certains interlocuteurs, c'est de dire... à trop en parler finalement, et ben ça on se pose des questions, on se fait des nos cerveaux et on va créer des problèmes qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à vouloir réglementer sur des choses qui ne se posent pas dans l'entreprise, et ben finalement c'est là qu'on a des réactions contraires qui vont arriver et on crée un problème plutôt qu'on le résout. Quelle analyse vous faites ?
Je partage tout à fait votre analyse. Nous, on ne communique pas spécialement là-dessus, on répond quand on est interrogé. Et notre but, c'est d'outiller à la fois les chefs d'entreprise et les syndicalistes, mais en général les travailleurs, sur qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Mais On a le même constat. On a sur ces questions, parmi nos membres, Armel Carminati, qui est au MEDEF, qui est chargé des questions de discrimination et qui va être une des vice-présidentes du MEDEF, et qui chaque année fait une enquête qui confirme exactement ce que vous dites. Il y a des enquêtes, là encore, qui sont biaisées, ça dépend comment on pose les questions.
Bien sûr.
Y compris sur l'islam radical, mais enfin, c'est un autre sujet. Si on demande à un croyant, est-ce que la loi divine est supérieure à la loi humaine, je pense que beaucoup de croyants, musulmans ou pas, répondront oui. Dans son fort intérieur.
Exactement.
La question, ce n'est pas celle-là. C'est est-ce que la loi divine doit s'imposer à tout prix à la loi humaine ? Est-ce qu'on doit appliquer la charia ? Enfin, vous voyez, il ne faut pas absolument tout mélanger. Et donc, ce sondage montre que les cas de problèmes sont de l'ordre de 5%. Ne sont pas en progression. Et que, en tout cas, dans les grandes entreprises, les managers se sentent aujourd'hui un peu mieux armés pour y répondre. Alors après, il y a l'article 2 de la loi dite El Khomri, qui dit que le chef d'entreprise peut imposer la neutralité dans le règlement intérieur sous réserve de ne pas porter atteinte à d'autres libertés ou droits fondamentaux. C'est un amendement parlementaire, j'étais parlementaire, donc je ne veux pas jeter la pierre, il arrive toujours aux parlementaires de travailler trop vite et pas très bien. Je ne comprends pas ce texte. Porter atteinte à d'autres libertés ou droits fondamentaux, autres que lequel ? Il y a un droit fondamental à la neutralité en entreprise ? En plus, je souhaite bien du plaisir au juge quand il aura à se prononcer sur cette rédaction. J'ajoute que j'ai les plus grands doutes sur la constitutionnalité d'imposer de manière générale la neutralité en entreprise. Il y a déjà 6 critères très précis dans la jurisprudence qui permettent d'imposer la neutralité ou limiter l'exposer. L'expression de convictions religieuses pour des raisons de sécurité, d'hygiène, de prosélytisme, d'intérêt commercial de l'entreprise. Alors, on ne sortira pas de cette salle, on a expliqué ça à la ministre, qui, vu les débats autour de la loi, ne l'avait pas vu, et on lui a proposé une rédaction pour l'introduction au guide qui a été fait par la DGT, l'inspection du travail, dans lequel on a dit, ce qui est un peu tiré par les cheveux, jusqu'à ce qu'il y ait de la jurisprudence, continue à appliquer la jurisprudence qui existe. Ça ne fait que confirmer, ça ne crée pas quelque chose de nouveau. On va attendre de voir s'il y a quelque chose, pour qu'au moins les gens soient sécurisés. Donc notre travail à nous, c'est de les sécuriser. Mais moi, je serais intéressant d'échanger avec vous là-dessus. On a travaillé avec des syndicats, des fédérations, des confédérations. On a eu des échanges avec la CFDT, avec la CGT, avec le SNESUP, avec le syndicat des instituteurs, avec la CGC, avec des gens de l'enseignement privé. Également, je ne sais plus s'ils étaient CFTC, je pense que oui. Voilà. Donc on est très intéressé par voir le diagnostic et voir quelles réponses on peut apporter. J'ai même eu une session, c'était dans le secteur du caoutchouc. Le caoutchouc, ça paraît rien, mais c'est les pneus, donc c'est Goodyear, Michelin, des grandes entreprises mondialisées. C'est organisé par la fédération CFDT avec le patronat. Donc on a fait une session de discussion ensemble. C'était très intéressant pour voir les problèmes rencontrés côté patronal et côté syndical. On avait d'ailleurs quelques cas rares, mais absolument surréalistes. Comme un imam, on peut être imam et salarié, qui lisait le Coran sur son poste de travail. Donc j'ai répondu que la question, ce n'est pas de lire le Coran, c'est de lire sur son poste de travail. Enfin, en plus, le Coran, mais ce n'est pas vraiment le sujet. S'il lisait l'équipe, ce ne serait pas mieux.
Et justement, vous parliez de jurisprudence, il me semble qu'il y a la jurisprudence de la CJCE et de la Cour de cassation, enfin mars 2017, novembre 2017. Est-ce que, comment vous évaluez cette jurisprudence qui est postérieure à la loi El Khomri ?
Alors vous avez raison, il y a une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Qui a été entre guillemets appliqué par la chambre sociale de la Cour de cassation récemment. J'ai eu l'occasion, moi, de m'en entretenir avec d'ailleurs un juge à la CJUE il y a quelques temps, lors d'un séminaire à Strasbourg, qui a confirmé devant public ce qu'était notre interprétation. Alors d'abord, l'arrêt est un peu compliqué à lire, je pense, même pour des juristes, parce qu'il mélange un peu le cas belge et le cas français. Et dans le cas belge, on a la notion d'entreprise de tendance. Vous pouvez avoir une entreprise de tendance. Dans le cas français, on peut considérer qu'un syndicat ou un parti politique est une entreprise de tendance. C'est-à-dire qu'on est en droit d'exiger en fonction de l'objet social des convictions du salarié ou de l'adhérent. Mais la France n'ayant pas transposé une directive européenne, une entreprise privée ne peut pas se déclarer entreprise de tendance, contrairement à ce qui est souvent dit. Paprec, qui a introduit une clause de ce type-là, qui n'a pas été attaquée dans les tribunaux, clause de neutralité, en fait, d'interdiction du foulard en fait, général, a beau se proclamer entreprise de tendance, même avec ce texte, ça n'est pas possible. Simplement, ce que la jurisprudence dit, c'est un peu compliqué à comprendre, mais qui a une logique, c'est de dire le fait d'avoir dans un règlement intérieur une obligation de neutralité n'est pas directement discriminatoire. Mais à la condition que ce ne soit pas indirectement discriminatoire, parce qu'en fait, on vise une seule catégorie de personnel ou de conviction. si c'est vraiment la neutralité pour tout le monde et sur tous les plans, et pas seulement sur le plan du port du foulard. Et d'ailleurs, l'application qu'a fait la Chambre sociale de la Cour de cassation est très intéressante parce qu'elle a pris un cas où justement elle a rejeté un licenciement. C'est une entreprise, je crois, d'informatique qui avait une salariée qui allait faire des conseils informatiques dans une entreprise avec un foulard. Et le client a dit « c'est pas admissible pour moi, je supporte pas ». Et la Cour de cassation a estimé que c'était, entre guillemets, pas un caprice du client, il fallait qu'il y ait vraiment un intérêt commercial de l'entreprise, qui là n'était pas démontré, qui puisse justifier la clause de neutralité.
Donc vous pensez que cette jurisprudence est efficace, puisque vous disiez que la loi n'était pas d'une clarté limpide ?
Je ne sais pas, parce qu'en fait elle vient de sortir, cette jurisprudence. Alors elle est intéressante par le cas d'espèce. Ouais. Cela dit, dans d'autres cas, comment la Cour de cassation apprécierait, je n'en sais rien. Là, elle est intéressante parce qu'elle a bien rappelé finalement ce qu'est la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. C'est l'intérêt commercial de l'entreprise comme un des six critères et c'est le plus important et le plus difficile à apprécier. Mais ça se comprend très bien. Alors, il y a des cas évidents, hein, des agents de sécurité, il faut qu'ils aient uniforme.
Qu'est-ce que vous pensez de... Enfin, vous avez été très clair sur effectivement toute la partie réponse sociale, la nécessité de mixité dans les quartiers pour éviter les communautarismes et autres. Dans la prolongation de cela, pour vous, quelle est l'importance de la production de contre-discours ? Alors, on n'est bien clairement pas dans la laïcité, oui. On est sur les problématiques de radicalisation et de communautarisme. Comment vous voyez cela ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des initiatives qui sont intéressantes ? Comment c'est saisi au niveau du gouvernement ?
Oui. On est dans la laïcité, parce que vous en parlez tout à l'heure.
Vous parlez dans vos micros parce que vous n'entendez pas.
Excusez-moi.
Pardon, Sylvie.
On entend beaucoup moins.
Présente-toi, Karim, parce que tu n'as pas fait.
Karim Sylvie, je suis chef d'entreprise. Ancien cadre de presse publique. Et de casquette. Donc la notion, si on parle de contre-discours, au-delà de la radicalisation, elle impacte clairement. Le problème, c'est l'islam en France. Il faut arrêter que les gens se voilent ou prennent un problème qui est posé par la laïcité, qui a été ressorti par les attentats de groupes terroristes dits radicaux islamiques. Et donc, c'est ce problème de sémantique, notamment quand les gens parlent d'islam politique. Alors, une grande partie des musulmans disent que ces gens-là sont pas l'islam. C'est le discours qui en est, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas mettre en péril cette laïcité sur des jeunes, qui vont avoir un traitement différent, différenciant, et donc qui va les renvoyer à un communautarisme plus fort. Et est-ce que là, justement, il n'y a pas, vous l'évoquiez, les médias, il y a ces médias, mais dans le discours de la République, dans le discours de certaines instances, dans les termes choisis, dans les choses soulignées, là, il n'y a pas des expériences à faire. On parle toujours des terroristes d'origine maghrébine, on ne parle pas des 150 soldats d'origine maghrébine morts en Afghanistan. Et c'est ces biais-là qui, à un moment donné, pour moi, sont des biais qui peuvent renforcer la laïcité.
Vous avez raison, c'est à la fois, pas directement de la laïcité, mais connecté aux questions de laïcité pour la raison que vous avez dit. Il faut une extrême rigueur dans le vocabulaire, ce que nous demandons en permanence, qui n'est pas pratiqué par tous les politiques, et une grande rigueur dans l'analyse des faits. Alors, je suis désolé, il est presque l'heure, mais je vais quand même prendre un tout petit peu de temps avant de venir à la question, enfin vos deux remarques, parce que c'est très important. Distinguons. Il y a le terrorisme, Al-Qaïda, l'État islamique, qui existe dans le monde entier, qui a tué infiniment plus de musulmans que de non-musulmans. Il y a aussi des musulmans qui sont persécutés, dans certains cas, par des bouddhistes qui ont fait la Birmanie.
Oui, bon.
Donc il faut avoir ça en tête. Il y a cette dérive dramatique de jeunes français nés en France, vivant en France, vers le djihad, qui a des causes très complexes. Et je vous invite à lire, je pense qu'il va être en librairie, l'ouvrage de Farid Korozkovar, qui est un chercheur d'origine iranienne, Le Monde en a parlé il y a un jour ou deux. C'était en page 18, j'ai noté. Et en page 19, il y avait un très intéressant article de Patrick Veil, justement, sur la laïcité et la liberté, où il disait des choses assez comparables à celles que je dis là. Moi, j'ai regardé quand même de très près, nous avons regardé, parce que c'est important pour nous de comprendre. Et c'est d'ailleurs Dunia Bouzard qui nous a alerté il y a 3 ans sur ce que contenaient les sites de recrutement djihadistes. Et c'est impressionnant. Je ne parle pas l'arabe, je ne suis pas musulman, mais vous avez un pouvoir hypnotique par le rythme de la parole, par des bruits de vagues, et vous avez des messages subliminaux, comme il y a eu autrefois dans certaines publicités. Vous avez des techniques de manipulation mentale qui s'apparentent aux sectes. Vous avez des repérages sur Facebook de jeunes filles qui, par exemple, voulaient faire de l'humanitaire pour les musulmans qui sont tués par les occidentaux en Syrie. On cherche dans son entourage, à partir de son compte Facebook, quelle est la personne qui peut l'accrocher. Il y a une démarche scientifique, rigoureuse de communication qui est terriblement dangereuse. Et donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Moi, ce que j'ai vu, pour en parler avec des gens, des responsables de la sécurité de la police aussi, c'est qu'il n'y a pas de profil type de djihadiste. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas toujours, loin de là, passés par des mosquées. Encore moins par les mosquées salafistes, quoi qu'on pense du salafisme par ailleurs. C'est généralement dans l'entourage des quartiers, des cités, ou dans l'entourage des mosquées qu'on a des agents recruteurs. Et qui ne sont pas des imams officiels. Cela dit, toujours le principe de tolérance zéro, et je suis heureux de voir qu'on a fermé 10-15 mosquées, qu'on a expulsé des imams, et qu'on a introduit, je sais que sur le plan des libertés c'est critiqué, non seulement l'appel, l'apologie du djihad, l'appel à la violence, mais des doctrines ou des idées qui conduisent à ça. Moi je cite toujours l'exemple de l'imam de Brest, qui a dit un jour, la femme doit être pudique, pour être pudique il faut qu'elle sorte voilée, et s'il ne sort pas voilée, elle ne doit pas s'étonner d'être la proie du désir sexuel des hommes. Cet homme-là doit être, alors après il a fait amende honorable, il est très malin, mais ça doit être poursuivi et condamné. Donc il faut être ferme là-dessus, mais il faut savoir que la trajectoire est très diverse, ça va parfois vite, parfois pas vite. C'est parfois des gens éduqués, relativement insérés, parfois des gens qui ont fait de la petite ou de la grande criminalité. Et Korochkova analyse très bien, avec des échantillons scientifiques et représentatifs, la diversité des causes, qui rendent le combat d'ailleurs d'autant plus difficile. Dans les points communs, ce qu'on voit, c'est souvent, ce qui est assez banal, une très grande faiblesse du père, sans faire de la psychologie de café du commerce, et c'est une rupture affective, professionnelle, dans la vie du jeune, ce qui peut aider d'ailleurs en termes de prévention à repérer un certain nombre de choses. Donc, il faut bien distinguer le terrorisme, l'apologie du terrorisme, la radicalisation au sens de fondamentalisme, d'une vision archaïque, extrémiste d'une religion, de l'islam politique qui n'est pas forcément terroriste mais qui veut imposer sa loi à la République. C'est pour ça que j'emploie avec prudence le mot islamisme, parce qu'on ne sait pas très bien laquelle de ces réalités ça recoupe. Et je l'emploie le moins possible les histoires d'islamophobie, parce que là vous rentrez dans un débat, je suis fier d'être islamophobe, tu critiques l'islam, je te traite d'islamophobe. Non, on a le droit de critiquer l'islam comme toutes les autres religions et on ne s'en prive pas. Et on doit condamner les actes anti-musulmans, comme les actes anti-chrétiens, anti-juifs, etc. Donc la stigmatisation et l'appel en permanence aux musulmans de se justifier, de dire non, je ne suis pas terroriste, peut produire un contre-effet. Peut alimenter au minimum un repli identitaire. Et je pense que c'est une partie du cas pour le foulard. Il y a des cas de pression, de respect de l'imam, du père, du grand frère. Mais des cas d'identitaire. Moi, j'en ai rencontré des femmes, notamment jeunes et éduquées, qui disent « Je suis française, je suis laïque, et j'ai appris, il y en a une qui a dit ça, à l'école publique, j'avais la liberté de manifester mes convictions. Donc je porte le foulard parce que je suis musulmane et que j'assume cette identité tout en étant laïque et intégrée. » Donc c'est extrêmement dangereux, parce qu'à la fois il ne faut rien laisser passer, en même temps cet appel en permanence à demander aux musulmans de se justifier commence à provoquer des contre-effets chez les jeunes, y compris des jeunes qui travaillent plutôt pas mal à l'école. Et j'en ai des indications, moi je suis très souvent dans des lycées, des collèges de ce genre-là. Donc l'importance du contre-discours dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de dire la vérité, de dire ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui réussissent. Il y a de l'espérance aussi dans les banlieues. Bien sûr qu'il y a des dérives djihadistes, bien sûr qu'il y a des pressions, bien sûr qu'il y a quand même de la drogue. Et là, je pense qu'il y a des choses à dire sur des réussites. Il y a des réussites formidables qu'on ne célèbre pas assez, que moi je rencontre en permanence. Donc pour montrer qu'on peut être d'un quartier, même pas musulman, en plus musulman, et avoir des réussites dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine sportif, dans le domaine littéraire ou artistique. Et le contre-discours... Il y a des choses qui se font. Le ministère de l'Intérieur a fait depuis 2-3 ans un site Stop Jihad alors, par rapport à ça, qui est très bien fait, sauf que je leur ai dit, avec le respect et l'amitié que je leur porte, qu'un truc avec un drapeau bleu, blanc, rouge, si les gens sont partis des djihadistes, ils peuvent toujours attendre avant qu'ils le regardent. Donc il faut qu'il y ait des contre-discours d'autres éléments, d'associations, de la société civile. Il y en a de plus en plus. Et moi, ça ne me choque pas si on les aide discrètement pour qu'ils puissent s'exprimer sur la toile avec les techniques des jeunes et par des jeunes, des associations laïques et des associations militantes, pour qu'il y ait d'autres repères accrocheurs et bienfaits. Et ça se développe beaucoup. Il y a beaucoup d'associations qui le font aujourd'hui sur la toile. Simplement, comme vous le savez, quand on part sur Internet, en général, on part chercher des choses qui renforcent vos convictions et non pas des choses qui vous permettent d'interroger vos convictions. Donc, si on est parti dans ce cycle-là, on est tenté, on risque d'aller d'un site quasiment pro-terroriste à un autre site pro-terroriste. C'est ça la grande difficulté. D'où l'importance aussi du contact humain, du contact physique que l'on peut avoir dans un quartier, dans une association, dans une école, dans une entreprise. À partir du moment où quelque chose change dans le comportement de quelqu'un, il faut s'appuyer sur les liens affectifs. Et c'est ce que nous disait aussi Dunia Bouzard. Elle échoue souvent dans la réinsertion de jeunes qui sont partis au djihad, notamment de garçons. Elle y arrive de temps en temps avec des filles, un peu avec les garçons, mais toujours, ça part de rechercher le lien affectif. C'est pas de dire c'est mal, c'est horreur, tu as vécu des horreurs, tu as vu que c'était la manière de tuer des gens. C'est retrouver le lien avec un parent, une mère, un père, un frère, une sœur, un copain. Le lien affectif permet de sortir de cet enfermement du djihad et d'écouter la voix de la raison.
Merci. Vous avez une minute encore ?
Oui, oui.
Merci.
Le discours très récent sur le nouvel antisémitisme qui met en cause justement le fond du volontarisme ou pas d'ailleurs des banlieues, le mélange entre le politique, etc., etc., ce qui se passe d'ailleurs en ce moment en Israël. Comment vous appréhendez ça ? Est-ce que vous pensez que c'est dans votre domaine de compétence ? Parce que c'est quand même très particulier.
C'est particulier, mais c'est dans le domaine de nos compétences à travers le vivre ensemble, la laïcité, le respect des autres. Alors, je ne me suis pas exprimé là-dessus parce que je voulais pas. C'était pas directement de la laïcité. Donc, évidemment, comme le reste, ça restera entre nous. D'abord, donc là aussi, partons de l'analyse des faits. Il y a un vieil. Un